Eh bien, monsieur Hitchcock, je sais que vous êtes arrivé à Paris, mais que vous n'assistez pas aux premières en général.
Non.
Et est-ce que vous allez assister à la première de Psychose que nous verrons, nous aussi, ici?
Non, c'est pas possible, parce que je suis très, très nerveuse.
Ça vous fait peur?
Toujours la peur.
Ça peut pas faire de mal.
C'est pourquoi je fais le peur dans le film pour les autres. Voilà. Ce n'est pas la même peur, parce que c'est la peur de moi, de toute ma vie. Et cette peur est dans mes films. La peur de Hitchcock.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
En réalité, les oiseaux ne m'intéressent pas tellement. Ma passion à moi, c'est de les empailler.
L'art de créer le suspense est en même temps celui de mettre le public dans le coup en le faisant participer au film.
C'est un passe-temps surprenant, étrange.
Où est-ce que vous allez ?
Faire un film n'est pas un jeu qui se joue à deux, le metteur en scène plus son film, mais à trois, le metteur en scène plus son film plus le public.
Vous, je suis certain que vous n'avez jamais eu de moment vide dans votre existence. Est-ce que je me trompe ?
Et le suspense, comme les cailloux blancs du petit pousset ou la promenade du petit chaperon rouge, devient un moyen poétique, puisque son but est de nous émouvoir davantage, de nous faire battre le cœur plus fort.
Ce n'est qu'une apparence.
Reprocher à Hitchcock de faire du suspense, que certains considèrent comme une forme inférieure du spectacle, alors qu'il en est en lui-même le spectacle, équivaudrait à l'accuser d'être le cinéaste le moins ennuyeux du monde. Cela équivaudrait encore à blâmer un amant de donner du plaisir à sa partenaire au lieu de ne s'occuper que du sien propre.
Vous savez à quoi je pense ? Que nous nous prenons à notre propre piège.
Ainsi que l'ont très bien défini Éric Rohmer et Claude Chabrol, Alfred Hitchcock n'est ni un conteur d'histoire, ni un esthète, mais l'un des plus grands inventeurs de formes de toute l'histoire du cinéma. La forme ici n'enjolive pas le contenu, elle le crée.
Et une fois que nous sommes pris, nous ne pouvons pas nous en dégager. J'ai toujours vécu pris au piège, et je m'en accommode très bien.
En êtes-vous sûr? Croyez-vous vraiment ne plus en souffrir?
Alors si je souffre, et je prétends que non.
Si le désir m'est venu impérieux d'interroger Alfred Hitchcock à la façon dont Œdipe allait consulter l'oracle, c'est que mes propres expériences m'ont fait apprécier de plus en plus l'importance de sa contribution à l'exercice de la mise en scène. Quand on regarde attentivement la carrière d'Hitchcock, de ses films muets anglais à ses films en couleur d'Hollywood, on y découvre la réponse à quelques-unes des questions que tout cinéaste doit se poser et dont celle-ci n'est pas la moindre, comment s'exprimer d'une façon purement visuelle. Hitchcock se trouve être pratiquement seul à filmer directement, c'est-à-dire sans recourir au dialogue explicatif, des sentiments tels que le soupçon, la jalousie, le désir, l'envie. Et cela nous amène à ce paradoxe. Alfred Hitchcock, le cinéaste le plus accessible à tous les publics par la simplicité et la clarté de son travail, est en même temps celui qui excelle à filmer les rapports les plus subtils entre les êtres. Ces mots sont ceux du cinéaste François Truffaut que nous pouvons lire dans la préface de ses entretiens avec le maître du suspense, recueilli en 1962.
The better the villain, the better the film.
La règle cardinale doit être que le meilleur le vilain, le meilleur le film.
The stronger the villain, the better your picture.
Le meilleur, le film est meilleur.
Ah ouais, sûrement. Ouais.
Ça doit être une règle cardinale.
Hollywood nous tend les bras ce soir, puisque je vous propose une traversée en compagnie de trois célèbres réalisateurs, à l'œuvre et au destin hors du commun. Alfred Hitchcock et deux autres monstres du 7e art, Orson Welles et Elia Kazan. D'ombre en jeu de lumière ou de miroir, ces trois-là ont donné écho à leurs fantasmes, inquiétudes et terreurs enfantines. En mai 1915, Orson Welles naît dans une famille cultivée du Wisconsin. À la santé fragile, il se révèle très vite un enfant prodige, farceur, aimant à se grimer et à se déguiser. De l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, c'est la fin brutale de l'enfance pour Alfred Hitchcock. Le jeune Alfred a presque 16 ans, son père meurt prématurément et l'Angleterre est en guerre. Il commence son premier emploi dans une société londonienne de câbles électriques. Hitch étudie en parallèle le dessin et dévore déjà les journaux de cinéma. Le petit Elia, quant à lui, né à Constantinople dans une famille de Grecs d'Anatolie, est âgé de 4 ans lorsque la famille gagne New York à l'orée de la Première Guerre mondiale. Elia Kazan a dû se construire contre la figure d'un père peu aimant, très attaché aux traditions de sa famille. Petit garçon rusé, il déjouera soigneusement les espoirs de son père de reprendre l'entreprise familiale, les Kazan & Company, tapis et couverture d'Orient. Devenu cinéaste, Hitchcock et Welles s'imposent très vite dans la maîtrise de l'art cinématographique, du suspense et de l'effet dramatique. Ce sont bien deux tempéraments visuels, comme le dira fort justement François Truffaut. Kazan, cofondateur de l'Actor Studio, s'inscrit quant à lui dans un style cinématographique peut-être plus épique. À travers divers entretiens publiés, leurs biographies officielles et la très belle autobiographie qu'Elia Kazan publia en 1989, suivez-moi sur les traces de ces trois géants qui ont marqué l'Amérique des années 40 et 50. Welles, le génial enfant rebelle de l'Amérique, Hitchcock, l'anglais typique adopté par Hollywood, Kazan, l'immigré qui incarnera la gloire hollywoodienne, mais aussi le macartisme. Leurs vies sont des épopées. Commençons par le plus jeune, celui qui réveilla l'Amérique par ses coups de génie, Orson Welles.
Good evening, this is Orson Welles. You're a producer of a special series of broadcasts presented by the makers of Pabst Blue Ribbon.
Quelques années avant le succès de Citizen Kane, alors qu'il prête sa voix à la radio, c'est au théâtre qu'il va faire ses débuts fracassants. À 20 ans à peine, il met en scène une version vaudou du Macbeth de Shakespeare avec des comédiens afro-américains de Harlem. En 1935, dans le contexte de la Grande Dépression, émerge un jeune prodige. Voici le récit qu'en fait Barbara Liming, la biographe officielle d'Orson Welles. L'énergie colossale et visiblement contagieuse du maître d'œuvre lui permettait de travailler quasiment 24 heures sur 24. À cette époque, on aurait dit que je pouvais me passer tout à fait de dormir, se rappelle Orson Welles. Cette période de ma vie à Harlem est celle où j'ai eu le moins besoin de sommeil. Je faisais de la radio toute la journée, de 9h à 17h ou 18h, avec en plus une émission à la fin de la journée. Nous répétions de minuit à l'aube, et puis après le lever du jour, je me promenais à travers Central Park. Imaginez à quoi ressemblait New York à l'époque. Je traversais Harlem, je traversais Central Park, et après cet exercice, je prenais une douche pour aller au studio qui m'attendait. C'est un régime incroyable. Bien sûr, je ne l'ai fait que durant les répétitions du Macbeth, mais elles ont duré 2 mois. 2 mois sans dormir du tout. Si quelque chose n'allait pas, il aimait bien intimider les comédiens en roulant ses énormes yeux sombres, car il pouvait en effet se montrer aussi colérique qu'infatigable. D'ailleurs, une de ses mémorables explosions de colère eut lieu lors d'une répétition en costume. Il était près de 4 heures du matin. Après avoir travaillé près de 72 heures coupées seulement de quelques siestes, la troupe était épuisée et surexcitée. Dans la galerie, on apercevait Welles qui se rongeait les sangs en songeant à la première. La mine renfrognée, broyant du noir, il avait manifestement trop bu. Mais c'était parfaitement compréhensible. La troupe voulait célébrer la fin de la répétition. Quelqu'un l'interpella. « Tu viens avec nous ?»« Tu viens avec nous ?» répéta un autre. Silence. Le silence durait. Est-ce qu'il n'avait pas entendu, tout simplement ?« Je ne viens avec personne » beugla-t-il d'une voix d'ivrogne. « Je suis un homme libre !» Le soir de la première, il ne sut exprimer pourquoi ni comment les choses prirent bonne tournure, mais il en fut fort aise. La haine virulente qu'il avait rencontrée à Harlem pendant les répétitions disparut comme par magie ce soir-là. Tout à coup, sans la moindre raison, Harlem tout entière semblait avoir décidé que c'était pour chacun de ses habitants le triomphe de sa vie. Tous ceux qui ont assisté à cette première en parlent comme de la plus grandiose de l'histoire de Harlem, si ce n'est du monde. Le lever de rideau annoncé pour 20h45 n'eut lieu qu'à 21h25, car du Lafayette Théâtre inondé de lumière aussi bien dedans que dehors, un spectacle burlesque s'offrait au regard. Le long de la 7e avenue, une dizaine de rues transversales étaient interdites à la circulation et envahies par la cohue des candidats spectateurs, dont le nombre excédait largement les 1223 places du Lafayette Théâtre. « On n'avait jamais vu ça à Harlem », se souvient Orson Welles. Il y avait toutes les bandes de voyous du quartier et toute la respectable bourgeoisie noire, et puis la foule terriblement chic des beaux quartiers. Welles s'aperçut tout à coup qu'après avoir passé la nuit précédente à boire, il n'avait même pas changé de chemise. On l'entendit donc crier dans la coulisse. « Y a-t-il quelqu'un qui porte une chemise taille 16 ici ?» Et il finit par trouver un membre de la compagnie disposé à lui prêter sa chemise, mais les manches lui arrivaient à mi-bras. Quelques instants plus tard, un tonnerre d'applaudissements éclatait, mêlé d'exclamations de plaisir. Le rideau était enfin levé sur le décor de jungle inextricable, sur les costumes surprenants et l'éclairage voluptueux du Macbeth noir d'Orson Welles.
Good. Why do I yield to that suggestion? Whose horrid image doth unfix my hair and make my seated heart knock at my ribs against the use of nature?
Le spectacle devint en quelques jours le plus couru de la ville. Il atteignit 9 semaines à guichet fermé. Tout à coup, il semblait que tout le monde à New York avait entendu parler du jeune prodige et désirait voir son nouveau spectacle si étonnant. Wells refusa même une tournée à Londres. Il s'amusait beaucoup trop à Harlem, où, au lieu du paria qu'il avait été, il était désormais considéré comme un ami, partout fêté et congratulé. « J'avais conquis Harlem. 2 ou 3 nuits par semaine, je traînais dans ce quartier où j'étais le roi. J'étais vraiment le roi. »
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission, tonight's the casting call. If this is the real audition, oh God, help us all. You
présent, traversant l'Atlantique 2 ans plus tard, en compagnie d'un autre grand talent à la conquête de l'Amérique. En 1937, Alfred Hitchcock est déjà célèbre dans son pays, toujours espiègle, il se plaît pourtant à se désespérer du mauvais temps londonien qui lui pèse comme un couvercle. Le ciel était toujours gris, la pluie était grise, la boue était grise et j'étais gris, s'amuse-t-il à raconter. Hitch ne pouvait donc que rêver de la Californie. Mais avant de s'installer à Hollywood, c'est à New York qu'à l'âge de 38 ans, il fait ses premiers pas au pays de l'oncle Sam. Retrouvons-le en famille avec cet extrait issu de la biographie très détaillée de Patrick McGilligan, paru en 2003 et intitulé « Alfred Hitchcock, une vie d'ombre et de lumière ». Nous sommes au cœur de l'été. Les Hitchcock, y compris leur fille Patricia, âgée de 9 ans, s'embarquaient pour l'Amérique, sur le Queen Mary. La traversée prenait 6 jours, mais les voyages en bateau détendaient Hitchcock. Il aimait se reposer sur le pont, regardant les vagues et les passagers avec un plaisir égal. Le réalisateur amusa les autres passagers en récitant de tête les escales, les heures d'arrivée et de départ de tous les autres bateaux aperçus durant la traversée. Quand on lui demandait de définir le bonheur parfait, il répondait « un ciel bleu sans nuages ». Au cours de cette traversée qui l'emmenait aux États-Unis, il s'est sans doute demandé s'il avait bien raison. Car il savait bien qu'en Angleterre, il aurait facilement occupé pendant des années la place du plus grand cinéaste du pays. Dans ses entretiens avec François Truffaut, Hitchcock se demande pourquoi il avait attendu si longtemps pour visiter un pays qu'il avait suivi depuis son adolescence, comme on suit une équipe sportive favorite. « Quand j'étais en Angleterre, je rencontrais constamment des Américains et je connaissais parfaitement le plan de New York. Je me faisais envoyer les horaires de train. C'était mon violon d'ingres. Et j'en connaissais beaucoup par cœur. » Des années avant d'y avoir été, je pouvais décrire New York, vous dire où se trouvaient les théâtres et les magasins. Quand je parlais avec des Américains, ils me disaient tous « Quand êtes-vous allé là-bas la dernière fois ?» Je répondais alors « Je n'y suis jamais allé. » Débarquant pour la première fois à New York, les Hitchcock firent de l'hôtel Saint-Régis, au coin de la 5e avenue et de la 55e rue, leur quartier général. Partout où il allait, Hitchcock descendait dans des hôtels de luxe et par la suite, le Saint-Régis fut toujours son port d'attache à New York. Les Hitchcock étaient ostensiblement en vacances, comme le réalisateur le répétait aux journalistes. Bien entendu, le véritable objectif du voyage était de servir les ambitions américaines du réalisateur. Dans sa suite, entre coups de téléphone et autres interruptions, Hitchcock régalait les membres de la presse. Son épouse, une petite blonde qui ne paraît pas faire plus de 40 kilos sur la balance, selon un article, entrait et sortait en coups de vent, occupée à faire des courses, tandis que Pat, une gracieuse enfant qui fait de jolies révérences et dit « How do you do ?», jetait une balle contre un mur, essayant de la rattraper au rebond. Le réalisateur fut interviewé par le New York Times, l'émission de télé Picture Parade et la radio américaine. Bien que circonspect avec les critiques et les journalistes, Hitchcock apprenait la règle du jeu en Amérique. Ouvert et à l'aise avec la presse, il pouvait parfois se laisser aller ce qui se retournait contre lui. Jusque-là, les comptes rendus américains sur la carrière d'Hitchcock avaient été limités à quelques interviews et de brefs articles dans les journaux de New York et de Los Angeles. En Angleterre, la couverture médiatique était bien entendu beaucoup plus importante, mais limitée à ses techniques de cinéaste et aux films eux-mêmes. L'Angleterre n'avait pas encore acquis le goût des ragots sur les célébrités qui régnaient à Hollywood. En 1937, il aurait été impensable que la presse britannique se livre à une description physique de Hitchcock ou se permettre des plaisanteries sur son poids, ce qui n'allait pas tarder à devenir habituel aux États-Unis. Les journalistes américains étaient impressionnés par sa corpulence, évaluée à 120 kilos. Les interviews ayant souvent lieu pendant un dîner ou à l'apéritif, ils notaient non seulement ce que Hitchcock mangeait, mais aussi ses plaisanteries sur son poids. Un article le décrivait comme un de ces sultans bon vivant tiré d'un dessin humoristique du célèbre magazine Esquire. Même le très sérieux New York Times le trouvait falstaffien, le décrivant comme, je cite, « un monument ambulant au culte sans vergogne du blanc sec et du chapon, des côtes premières, de la bière coulant à flot et de doubles rations de crème glacée ». La presse était ravie de trouver Hitchcock si convivial et si fertile en propos qu'on pouvait citer. Dès cette première série d'entretiens américains, il était clair qu'une vedette était en train de naître.
François Truffaut, aujourd'hui tout le monde rend hommage à Hitchcock, mais ce que l'on doit dire tout de même à la lecture de votre livre qui fait autorité, c'est que l'Amérique a été très très lente à lui reconnaître la place qu'il occupe et que c'est finalement l'Europe qui, la première, l'a consacrée.
Oui, enfin, qui l'a prise tout à fait au sérieux, parce que quand même Hitchcock était très célèbre en Amérique.
Mais la critique a été tardive en Amérique.
La critique a été tardive, oui, d'autant plus que c'était pas des films, ce qu'on peut appeler des films à Oscar. Les films à Oscar, c'était Tant qu'il y aura des hommes, je sais pas moi, le grand film contre la guerre, ou ça a toujours été comme ça. Hitchcock ne travaillait pas dans la noblesse de sentiment. Il ne travaillait pas dans le grand sujet. Il travaillait avec sa propre émotivité. Et il cherchait des histoires qui correspondent à son style, des histoires en général d'hommes innocents accusés de crimes qu'il n'a pas commis.
Poursuivons enfin avec le troisième personnage de notre épopée, Elia Kazan. C'est une histoire américaine, une histoire d'immigration qui entra son cinéma. Tout commence le jour où les Kazanjoglou, devenant les Kazan, arrivent à New York. Le cinéaste, alors petit enfant, imaginera d'ailleurs cette arrivée dans America, America, un de ses plus beaux films, du moins le plus personnel. Il y met en scène le voyage de son oncle depuis l'Anatolie jusqu'en Amérique. Débarquant du bateau, le personnage se met à genoux et baise le sol. Aucun de ceux qui sont nés aux États-Unis ne sait vraiment ce que représente l'Amérique, confie Kazan dans l'autobiographie extrêmement sincère et émouvante qu'il a publiée à près de 80 ans. Entrons dans l'intimité. La famille Kazan est installée dans la banlieue new-yorkaise de New Rochelle. Le père, marchand de tapis, travaille sur la 5e avenue. Ses affaires sont florissantes. Pendant qu'il est à sa boutique, une complicité secrète se tisse entre le petit Elia et sa mère, Athéna. Elle est une jeune femme robuste et tenace dont le mariage fut plus ou moins arrangé et qui gardera toujours malgré tout un très fort esprit d'indépendance. Elia Kazan est petit, il a le regard noir et les jambes arquées. Dans Une vie, Elia Kazan se livre sur la difficile relation avec son père qui va forger son caractère. Selon nos traditions, l'éducation des enfants relevait dans une certaine mesure de la mère. Cette mesure était atteinte lorsque le fils était en âge d'apprendre le métier. À ce propos, voici les premières paroles que m'ait jamais adressées mon père. « Qui s'occupait de moi quand moi, vieux, mon garçon ?» J'y répondis. « Moi, papa. Sûr, papa. T'inquiète pas, papa. » Je prêtais ce serment sous l'effet de la crainte. Je ne le tins pas et n'en avais d'ailleurs jamais eu l'intention. Ma mère avait d'autres projets. Moi aussi, bien qu'ils ne fussent pas encore très clairs dans mon esprit. Souvent le soir, mon père se tournait vers moi. « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon garçon ?» Il se disait, j'en suis sûr, qu'il s'était tué à la tâche pour gagner notre croûte pendant que nous autres, nous nous tournions les pouces. C'est à ce moment-là qu'il m'avait donné mon surnom, Bon à rien. « Eh, Bon à rien, apporte ton vélo, nom d'un chien. Va au charcutier et achète 6 tranches de jambon et 6 tranches de langue. » L'école finie, j'allais passer le reste de l'après-midi dans les rayonnages de la bibliothèque municipale à parcourir les livres qui pourraient apporter des solutions à mes problèmes existentiels. Ou bien j'allais au cinéma. Le cinéma devint ma passion. Des rêves semblables aux miens se matérialisaient sur l'écran. Je n'avais pas d'argent, aussi avais-je trouvé un moyen d'entrer au cinéma Lowe's de New Rochelle. Lorsque les portes de sortie s'ouvraient et que la foule se pressait hors du cinéma, je la remontais à contre-courant. J'étais petit, rapide et insaisissable. Qu'attendais-je de la vie ? Rien de noble. Mais je désirais ardemment être un Américain. Avoir les mêmes choses que les gamins américains. Vivre comme eux, jour après jour, être accepté d'eux, goûter les mêmes joies qu'eux, être ensemble, admirer les automobiles, porter des pantalons pattes d'éléphant, partir en vacances d'été, avoir une pleine poignée d'argent de poche, arborer le nom d'une grande université sur mon sweater, danser avec une fille, mais pas comme un pied, puis la ploter. Rien de très noble, vous voyez, rien que de très ordinaire et de très simple, de très précieux aussi. J'étais persuadé que mon père s'opposerait à tout ce qui me tenait le plus à cœur. Je devais donc me procurer secrètement ce que je désirais le plus. Je m'exerçais à vivre dans le silence, sans jamais me plaindre ou rien demander, isolé, sans attendre aucune gentillesse, aucune faveur, ni même aucun coup de pouce du destin. Se débrouiller sans l'aide de la chance. Quel destin, en vérité. Ne jamais espérer aucune amélioration de son sort. Se résigner à être rejeté. Mais j'appris à revenir à la charge, à persévérer. Je m'endurcis. J'ai eu un coup de chance, ma rencontre avec un professeur. Elle s'appelait Miss Anna Schenk. Elle approchait de la cinquantaine, ce qui me paraissait très vieux. Elle s'était prise de sympathie pour moi et décida de prendre ma cause en main, moi, le jeune adolescent qui restait assis, tête baissée, dans le coin le plus reculé de la classe. Miss Schenk fit l'effort de rencontrer ma mère. Elle la convainquit de mes dons exceptionnels et toutes deux unirent leurs espoirs respectifs. Sur la base de possibilités qu'elles seules discernaient en moi, elles conclurent un pacte. C'est cette alliance que j'ai nommée la conspiration des beaux yeux bruns. J'économisais pour le premier versement à l'université. Je cirais des parquets pour 40 cents de l'heure. Chaque fois que c'était possible, j'allais l'après-midi au club de golf et servais de caddie à des femmes approchant la quarantaine, vêtues de longues jupes de laine. 1 dollar le parcours. Je n'utilisais pas les tramways, je marchais. Partout. C'est de cette époque que je tiens mes jambes solides et musclées. Miss Schenk, ma mère et moi, toujours à couvert, posâmes notre candidature à l'admission. L'université de Williams College, dans le Massachusetts, ferait de moi un homme libre. Je serais enfin sur la bonne voie.
When I was 4, we came to America and we lived,
il y a 15 ans,
quand on est arrivé en Amérique, on a vécu sur le côté ouest. Quand j'avais 5 ans, j'ai été envoyé dans une école Montessori. C'était une école très libérale. Et ça, c'est vraiment la première chose que ma mère a fait pour moi. Et c'est pour ça que je ressens autant de gratitude envers elle. J'ai vraiment ce sentiment de gratitude parce qu'elle a toujours essayé, depuis le début, de me rendre meilleur que les gens de la société dont j'étais issu.
Prenons un peu de recul dans nos pérégrinations. Près de 20 ans après la sortie d'American America, il y a 15 ans, rencontre Marguerite Duras. C'est à l'occasion d'un entretien pour les Cahiers du cinéma. Le film s'ouvre par la voix d'Elia Kazan lui-même.
My name is Elia Kazan. I am a Greek by blood, a Turk by birth, and an American because my uncle made a journey.
Je m'appelle Elia Kazan, je suis grec d'origine, turc de naissance et américain parce que mon oncle Stavros a fait un voyage. Nous sommes en 1980, rencontre et dialogue entre l'écrivaine et le cinéaste. Marguerite Duras. Il y a deux grands films sur l'exil, je ne dis pas l'émigration. C'est le film de Chaplin et votre film, Américain, Américain. Je crois que votre film n'est pas un film sur l'immigration. Je crois que ça couvre un territoire beaucoup plus vaste que celui-là. Elia Kazan, c'est ce que j'espérais. Marguerite Duras, Stavros, votre héros, je crois que c'est vous tous. Vous parlez d'un exil beaucoup plus essentiel, beaucoup plus universel qu'un exil motivé simplement par les conditions de paupérisation, l'exil qui va du pauvre au riche, du Moyen-Orient vers l'Amérique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Elia Kazan, j'espérais que ce serait universel. Mon idée était que pour arriver en Amérique, Stavros devait abandonner un peu de son honneur, de son appartenance au clan. Il vit en Amérique depuis 9 ans et il est devenu un monstre, à cause de la colère, de la déception, du rejet, de toutes ces forces qui sont en Amérique que j'ai ressenties quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je devenais furieux, furieux. À mon entrée au collège, j'étais comme un animal, je ne faisais confiance à personne. Marguerite Duras. Si vous voulez, la différence radicale entre vous et les autres qui font des films en Amérique, je ne dis pas les Américains. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans le cinéma. Je sais qu'il y a un lieu qui s'appelle Hollywood, un lieu qui s'appelle New York. Mais la différence entre les autres et vous, Elia Kazan l'interrompt. Je ne suis pas d'Hollywood. Marguerite Duras reprend. C'est cette sauvagerie essentielle qu'on retrouve dans tous vos films, qui est comme votre signature. Elia Kazan. Merci. Je l'ai toujours, je la sens toujours. Je ne suis pas américain, je ne suis pas turc, je ne suis pas grec, je suis citoyen du monde. Être dénaturalisé, c'est être castré, n'avoir plus de force. Quand on s'accommode à la société, quand on dit « j'accepte ce qu'ils sont », il ne vous reste plus de force. La colère est très importante souvent, elle vous sauve la vie. Plus que les racines, la colère elle-même, la colère qu'on ressent quand on est jeune. Marguerite Duras. Mais on n'est jamais coupé de son enfance. Ce n'est pas parce qu'on se déplace qu'on est coupé de son enfance. Elia Kazan, j'ai remarqué que parmi les créateurs, beaucoup ont été déplacés tôt dans leur vie, d'un endroit à l'autre, transplantés. Alors il leur fallait s'ajuster, s'acclimater, comme une plante, un arbre, et devenir extrêmement fort.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Just a child in school, I asked my teacher, what should I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply.
On, Mr. Thatcher.
Well, it's almost five, Mrs. Kane. Don't you think I'd better meet the boy?
I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now.
Charles!
Hockey, Mom!
Better come inside, son.
Well, that's quite a snowman. Did you make it all by yourself, my lad?
Maybe I'll make some teeth and whiskers.
This is Mr. Thatcher, Charles.
Oh.
How do you do, Charles?
He comes from the east.
Pa.
Hello, Charlie.
Charles?
Yes, Mommy?
L'enfance, n'est-ce pas ce moment où tout se joue, où se nichent obsessions, peurs et désirs? À l'image du journaliste Thompson qui, dans le fascinant Citizen Kane de Wells, part sur les traces du mystérieux Rosebud de Charles Forrest Kane, continuons à enquêter sur l'enfance avec nos deux autres héros. Ce n'est en effet sans doute pas un hasard si les thèmes de la quête ou de la poursuite sont au cœur de leur film. Mon père et ma mère, confia Orson Welles sur ses parents, étaient l'un et l'autre des êtres beaucoup plus remarquables que tout ce que je pourrais vous en dire. À mes yeux, c'était des gens merveilleux. Ils ont la dimension du mythe. Et pourtant, son enfance ne sera pas si facile. Sa mère, Béatrice, est pianiste, fantasque, militante, intellectuelle et lettrée et audacieuse. Son père, Dick, est inventeur, rêveur invétéré et quelque peu irresponsable. Wells sera jeune orphelin. Mais en quête de l'étincelle originelle, découvrons avec une célèbre anecdote relatée par Barbara Liming dans sa biographie comment ce génie d'Orson Welles se révèle dès le berceau. La scène se passe dans leur maison du Wisconsin. À 18 mois, Orson Welles fut découvert, comme on dit, mais ce ne fut ni par un agent théâtral, ni par un producteur du cinéma, ni par un quelconque dénicheur de talent, non. Ce fut par un médecin orthopédiste, appelé en tant qu'ami de la famille, un jour où le frère aîné d'Orson s'était blessé à la tête. La légende veut qu'au cours de cette visite, le docteur Maurice Bernstein passa par hasard devant le berceau du plus petit des deux Welles, qui, levant les yeux sur ce médecin à l'allure distinguée, déclara du fond de ses langes: le désir de prendre médecine est l'un des grands traits qui distingue l'homme de l'animal. Du moins, est-ce là ce que Bernstein raconta à Dick et Béatrice quand il fut sorti en courant de la chambre d'enfant, tout agité d'enthousiasme. Il s'y était retrouvé seul avec le bébé, expliqua-t-il, le souffle court, en revenant au salon. Ce bébé devrait être un prodige, un génie. Les visites du médecin devinrent quotidiennes et furent marquées par une succession de cadeaux éducatifs. Un violon, alors que les mains d'Orson ne lui permettaient même pas encore de le saisir correctement, une baguette de chef d'orchestre, du matériel de peinture et de sculpture, un théâtre de marionnettes, une boîte à phare de théâtre, une panoplie de magiciens. Bernstein gratifiait son protégé du surnom affectueux de Pookles, lequel reprit à son tour l'habitude de l'appeler Dada. Devenu partie intégrante du foyer, ce dernier avait, semble-t-il, de connivence avec la maman, l'intention de faire du garçon une sorte d'artiste. On peut supposer que Dada avait exagéré la sagesse des paroles prononcées par le petit Orson, mais il demeure que c'était effectivement un enfant doué, dont le développement profita immensément des encouragements constants que lui prodiguait le bon docteur. Le mot génie fut pratiquement la première chose qu'on me chuchota à l'oreille quand je vagissais encore dans mon berceau, rappelle Orson avec sérieux. J'ai donc attendu la cinquantaine pour m'aviser qu'après tout, tel n'était peut-être pas le cas. Assuré d'être un prodige aussi loin que remontent ses souvenirs, le jeune Orson y gagnait un air de confiance en soi, un air de toujours savoir de quoi il retournait, à croire qu'il avait hérité de l'audace de sa mère. Or, malgré cette belle assurance apparente, l'enfant vivait dans la frayeur constante de ne pas répondre à l'attente de ses parents. « J'avais toujours le sentiment de les trahir, » dit-il aujourd'hui. « Voilà pourquoi je déployais tant d'efforts. Tel était le carburant qui faisait tourner mon moteur. »
Je déteste le mot professionnel.
Orson Welles.
Tout le comédien et les autres qui disent « Moi, je suis professionnel, je suis un pro. » Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un mot plus triste que ça? Parce qu'amateur, c'est basé sur le mot « amour ». Il faut faire les choses pour « love ». Sinon, nous sommes idiots. Nous ne sommes pas des professionnels, grâce à Dieu.
Peu après, les parents se séparent et les drames se profilent. Au fil des pages, nous remarquons comment le jeune Orson fut coupé de son enfance. Tandis que le père s'égare dans la dépression, l'alcoolisme et les voyages, la mère, malade, s'installe à Chicago, où elle réalise un vieux rêve en tenant un salon artistique dont l'une des principales attractions était son fils Orson. L'existence avec ma mère n'était pas de tout repos. Les enfants avaient le droit d'être traités en adultes aussi longtemps qu'ils étaient amusants, se remémore Orson Welles. Dès qu'on devenait ennuyeux, on était impitoyablement renvoyé à la nurserie. La nécessité absolue d'amuser, de charmer et de séduire fut un facteur primordial dans la construction de la personnalité bien connue qui allait devenir celle d'Orson Welles. Aussi charma-t-il les musiciens qui fréquentaient sa mère parmi d'autres artistes et intellectuels. Lorsqu'il donnait des concerts de musique de chambre, le petit garçon faisait semblant de les diriger avec sa baguette, tournant impérialement les pages de la partition qui s'étalait devant lui sans jamais se tromper de moment. Par courtoisie envers sa mère, leur hôtesse, les musiciens ne manquaient jamais de chanter les louanges du génie, contribuant ainsi à renforcer puissamment ce que Dada n'avait jamais cessé de lui répéter. La fréquentation exclusive des adultes nourrissait la confiance qu'il avait en lui-même. En dehors du violon et du piano, l'éducation que reçut le jeune Orson fut assez informelle. Dessin et peinture, lecture de Shakespeare avec Béatrice, qui se servit du songe d'une nuit d'été pour lui apprendre à lire, quelques bribes de conversation allemande avec sa nounou, conception et réalisation de spectacles de marionnettes pour Dada, fréquentation régulière du théâtre et de l'opéra, et enfin, interprétation du roi Lear. Il passait des heures à se maquiller et à apprendre le rôle, et de divers personnages du répertoire qui lui permettaient, en imagination, de satisfaire ce qu'il appelle sa détermination à échapper aux conditions de l'enfance. Et chez Alfred Hitchcock alors, par petites bribes, approchons le petit Hitch. Enfant potelé, plutôt réservé et observateur, il grandit dans la banlieue londonienne, dans une atmosphère qui, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, serait plus proche de Frank Capra que de Dickens. Plusieurs légendes enfantines le concernant sont restées célèbres et entretenues. Vous connaissez peut-être déjà la plus célèbre de ces histoires d'enfance, un séjour enfant au poste de police. Mais oui. Pour donner une leçon à son jeune fils, William Hitchcock l'aurait envoyé au poste de police local avec un petit mot disant qu'il avait été vilain. L'agent de service l'aurait enfermé dans une cellule en disant « Voilà ce qu'on fait au vilain petit garçon ». Hitchcock déclara n'avoir jamais oublié le fracas métallique de la porte imposante se refermant et le claquement brutal du verrou. Au bout de quelques minutes, peut-être cinq, peut-être plus, il fut relâché. Hitchcock racontant l'incident aux journalistes, comme il le fit infatigablement pendant des années, l'anecdote se développa et se modifia. L'infraction devint différente. L'âge de l'enfant changea. Parfois, il n'avait que 4 ans, parfois, il en avait 11. Il ne faut pas oublier que le grand-père paternel d'Alfred était gardien de la paix et qu'au moins dans une version de l'histoire, l'agent de police était un ami de la famille mis au courant. Les policiers, comme les curés, n'étaient nullement étrangers chez les Hitchcock. Néanmoins, le cinéaste affirma toujours que l'incident lui avait donné à vie la peur des arrestations, des prisons et de la police.
People like to be frightened.
Les gens adorent avoir peur.
All their lives to be frightened from little babies.
Déjà, dès leur petite enfance, ils aiment éprouver ce sentiment. Et ça continue jusqu'à l'adolescence, et même plus tard.
to enjoy going into rides, fast automobiles.
Ils adorent, par exemple, conduire des voitures qui vont très très vite.
Enjoy fear.
Mais pourquoi les gens aiment-ils la peur? C'est un grand mystère, même pour moi.
It is even a mystery to me why people enjoy fear. Now it all starts when the little baby.
Ça commence déjà tout petit quand le bébé est effrayé par sa mère. Elle tient le bébé dans ses bras et lui fait boum.
The baby in her arm and says boo.
De l'enfance au génie, n'y aurait-il qu'un pas? Redonnons à présent la parole à Elia Kazan, qui dans ses mémoires nous donne sa définition des génies. Les génies sont gonflés d'égoïsme et d'arrogance. C'est une condition nécessaire à leur état. Une personne de talent qui peut exploiter ce don, voilà ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Elle apporte la réponse aux vieilles questions qui nous taraudent. Qui est l'homme? Pourquoi est-il sur Terre? Qu'est-il censé créer? Qu'est-il censé être? Ces hommes qu'on appelle les génies ont égayé mon existence, mais je ne les considérais pas comme tels. Tous ceux que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai travaillé, le compositeur Aaron Copland, l'écrivain Tennessee Williams, Orson Welles, Marlon Brando, faisaient montre dans leur travail d'une énergie et d'une joie de vivre communicative. Les génies sont bénis des dieux. Non contents de faire des étincelles, ils éclatent de rire plus souvent qu'à leur tour. La vie, en effet, exauce tous leurs désirs. Ils sont bien dans leur peau et exercent l'activité de leur choix. Ils ne doutent pas de leur valeur et ne répondent plus à ceux qui les critiquent. Tout ce qui précède élude la question essentielle. De tels êtres sont-ils nés avec un don divin ou l'ont-ils acquis? Je ne sais pas. Mais j'ai noté une constante chez ceux qui possèdent ces qualités mystérieuses. Très souvent, une blessure leur a été infligée quand ils étaient jeunes. Elle les a poussés à redoubler d'efforts et elle a aiguisé leur sensibilité. Le talent, le génie sont la croûte sur cette blessure. Ils sont là pour protéger un endroit sensible par lequel la mort a tenté de s'insinuer. Voilà comment naissent les dons précieux de ces hommes, acquis au prix de leur souffrance. Ce sont eux nos héros. Ils ont surmonté les difficultés auxquelles le reste de notre race se soumet en s'apitoyant sur son sort et en se trouvant des excuses. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec des hommes et des femmes qui avaient échappé au malheur, j'ai été sensible à leur force de caractère extraordinaire. Et je me suis nourri de cette force qui m'était offerte en cadeau.
Moi, j'aime faire des films qui veulent exprimer quelque chose de précis. Et je voudrais que les gens sortent de mes films en se posant des questions, en étant dérangés.
They feel something.
Je voudrais que les gens, le public qui voit mes films, puissent se dire qu'on leur dit quelque chose, qu'on leur transmet un certain message. Et par exemple, quand ils voient America, je voudrais que les gens soient intrigués. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui me croisent dans la rue, qui viennent et qui me parlent et qui me disent « Ah oui, je me souviens encore de ce film » ou « Où est-ce que je peux voir ce film ?» ou qui me posent des questions.
Isandra, lights, please. I'll begin with post-hypnotic suggestion, and after, if person here is a good subject, regression.
J'avais 17 ans et je rêvais de Hollywood.
On Wednesday. One, two, three.
Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante. Ciné rieur, ciné bonheur, cinématographe. À toute heure permanent, ciné, cynique, ciné moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Ce ciné-là m'est bien égal, moi ce que je préfère c'est le musical. Cinéma, tu m'as tout appris, grâce à toi j'ai perdu l'esprit. J'ai été pauvre, j'ai été roi, j'ai vécu mille vies à la fois. Cinéma, tu m'as tout donné, tant de fois tu m'as fait j'ai rêvé. J'ai connu l'amour, la beauté, le luxe, le calme, la volupté. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Ciné rien, ciné bonheur, cinématographe à toute heure permanent. Hey, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly. Ciné joyeux, ciné blagueur, cinéma qui vous va droit au cœur.
I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you.
Ciné, roman, ciné qui ment, cinéma fait pour plaire aux amants. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Ciné, penseur, ciné sérieux, le cinéma c'est contagieux. Ciné, suspense, ciné mystère, moi c'est le musical que je préfère. Ciné moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Ceci n'est là, mais bien égal. Moi, ce que je préfère, c'est le musical.
Concluons en reprenant avec plaisir le fil de la pensée de François Truffaut, qui rend ici hommage aux grands maîtres, les auteurs du cinéma américain. Je n'ignore pas que certains intellectuels américains s'étonnent que les cinéphiles européens, et particulièrement les Français, considèrent Hitchcock comme un auteur de films, au sens où on l'entend lorsqu'on parle de Jean Renoir, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Louis Buñuel ou Jean-Luc Godard. Au nom d'Alfred Hitchcock, les critiques américains en opposent d'autres, prestigieux à Hollywood depuis 20 ans, de grands noms, des collecteurs d'Oscars. Ne ressentant aucun besoin impérieux d'introduire dans leur travail leurs propres idées sur la vie, sur les gens, sur l'argent, sur l'amour, en quoi consiste leur travail. Il n'est pas question, ces grands noms d'Hollywood, de les considérer comme des imposteurs, mais selon moi, Hitchcock les surclasse tous. Louis-Ferdinand Céline divisait les gens en deux catégories, les exhibitionnistes et les voyeurs. Et il est bien évident qu'Alfred Hitchcock appartient à la seconde catégorie. Il ne se mêle pas à la vie, il la regarde. Et il ne vibre que pour le cinéma. Si l'on veut bien, à l'époque d'Ingmar Bergman, accepter l'idée que le cinéma n'est pas inférieur à la littérature, je crois qu'il faut classer Hitchcock, mais au fait pourquoi le classer, dans la catégorie des inquiets, comme Kafka, Dostoevsky, Poe. Ces artistes de l'anxiété ne peuvent évidemment pas nous aider à vivre, puisque vivre leur est déjà difficile, mais leur mission est de nous faire partager leur hantise. En cela même, et éventuellement sans le vouloir, ils nous aident à nous mieux connaître, ce qui constitue un but fondamental de toute œuvre d'art.
Ça peut pas faire de mal.
Le livre Hitchcock Truffaut est édité par Gallimard. Une vie d'Elia Kazan, Orson Welles par Barbara Liming, disponible en français aux éditions Mazarine. Alfred Hitchcock, Une vie d'ombre et de lumière, la biographie de Patrick McGilligan, édition Actes Sud. Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Olivier Dupré à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Périne Malinge, Leila Kourousselikoua, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.